On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Eh bien, bonjour dans On n'est pas des Einstein, mais tout est relatif. Et c'est l'émission numéro 10, un nombre, puisque maintenant on est passé au numéro 10. Et nous sommes le mois de juillet 2023, le premier épisode de cet été. C'est énormissime, j'espère que vous êtes en train de chiller tranquille avec une petite... Allez, on va pas parler d'alcool, on va parler de sirop à la menthe avec un petit peu de glaçon, au bord d'une piscine, si possible vide, parce que nous sommes... dans un été très sec, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vais vous présenter les gens qui sont avec nous dans le studio. Nous avons déjà Louise qui est à ma droite.
Bonjour à tous.
Ensuite, nous avons Didier.
Bonjour à tous.
À ma gauche. Et aujourd'hui, nous accueillons une personnalité, la deuxième personne qui nous vient des États-Unis depuis le mois dernier, Claire. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Alors Claire, tu es américaine.
Oui.
Mais tu parles plutôt bien français.
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins, super. Bon, on essaiera, s'il y a besoin, on peut te poser des questions en anglais. Et sinon, on traduira si tu peux répondre en anglais ou en français. Ça
cool,
va
super.
Donc, ce mois-ci, au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a comme news au niveau scientifique? Alors, au mois de juin dernier, il y a Boeing qui a annoncé qu'il reportait son premier vol spatial habité à cause d'un ruban adhésif qui n'était pas bon. Alors... c'est les titres des journaux, hein. Mais il faut un peu plus gratter la news pour savoir qu'en fait, c'était tout à fait normal. Il y avait un ruban adhésif. En gros, c'était un ruban qui pouvait entourer des câbles électriques qui, en fait, n'étaient pas aux normes et pouvaient éventuellement risquer d'engendrer des feux, des départs de feux. Ce qui est dans l'espace un petit peu contraignant. Hein. Si vous avez un jour un feu dans l'espace, c'est pas cool. Mais voilà, en gros, les journaux se sont emparés de la chose et ont dit « Boeing reporte son premier vol à cause de scotch ou de ruban adhésif ». Oui, au final, c'est juste un problème de normes sur un produit en particulier. Mais voilà, vous pouvez retrouver ça sur 20 minutes, si vous voulez lire un peu plus. Louise, dis-moi.
Oui, bah vous verrez souvent ça dans l'industrie du spatial. Les vols qui sont reportés, il y a énormément de décalage au niveau des timelines. Il y a beaucoup de raisons à ça. Principalement, c'est des raisons de sécurité, parfois des raisons de météo. Mais la raison, c'est surtout qu'au fond, une... mission spatiale, ça coûte très très cher et qu'on veut prendre toutes les précautions pour qu'on n'ait pas une explosion quand on envoie dans l'espace ces satellites qui coûtent si cher.
Exactement. Il faut être précautionneux et la moindre petite chose, on doit les tester, on doit les approuver, etc. Donc, c'est pas une surprise ou c'est pas quelque chose de... d'inhabituel, ce genre de news, mais les journaux, bon, faut bien qu'ils aient un petit peu de grain à moudre, hein, comme on dit. D'ailleurs, en parlant dis-moi.
J'ai une question. Pourquoi Boeing fait des capsules spatiales pour les vols habités?
Bah, en fait,
on a déjà assez de vaisseaux spatiaux ou c'est comment dire, c'est pour une ouverture à la concurrence et...
Alors, c'est principalement une question d'ouverture à la concurrence. Le monde de l'industrie de l'exploration spatiale humaine, c'est très très peu de personnes qui sont impliquées. Il faut savoir que pendant des années, en fait, il n'y avait que les Russes et les Chinois qui étaient capables d'envoyer des hommes dans l'espace. Quand la navette spatiale américaine s'est arrêtée d'opérer, à partir de là, tous les Américains, tous les Européens qui sont partis dans l'espace sont tous partis sur des fusées Soyouz. Malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, c'était une dépendance que, au niveau de la géopolitique, ni les États-Unis ni l'Europe n'étaient vraiment d'accord avec. Et donc, il y a eu énormément d'argent aux États-Unis qui a été enclenché pour développer leurs propres moyens d'accès à l'espace. Dans cette logique-là, il y a eu SpaceX qui en a beaucoup bénéficié, mais également Boeing. Et, Et il faut noter que les Européens, ça fait des années, peut-être même des décennies, qui réfléchissent à si nous aussi, on devrait avoir nos propres moyens d'accès à l'espace, puisque pour l'instant, tous les astronautes européens partent soit avec les Américains, soit avec les Russes, mais jamais sur des navettes européennes.
Du coup, en fait, mais nous, les Européens, on lance des Soyouz depuis la Guyane, donc...
Alors ça, c'était vrai jusqu'à
l'invasion de l'Ukraine.
Oui. Maintenant, il n'y a plus de Soyouz en Guyane, donc nous, Ariane Group n'envoie plus de Soyouz. On n'envoie que des Ariane 5, ce qui est peut-être le sujet d'une autre conversation, parce que les Ariane 5, on arrive au dernier lancement des Ariane 5, la dernière fusée est en construction actuellement, je crois, et l'Ariane 6 n'est pas prête. Donc bientôt, les Européens n'auront plus ou très peu de capacité de lancement, juste la petite Vega italienne qui permet d'envoyer des petits satellites.
Des petits satellites,
oui. D'accord.
Alors justement, la NASA, en fait, elle a passé des contrats récemment avec Boeing et SpaceX, et il faut savoir que les astronautes, jusqu'à l'ISS, voyagent depuis 2020 déjà à bord des vaisseaux de SpaceX. Et le programme de Boeing, lui, par contre, il a pris beaucoup de retard à cause d'une toute une série de déboires, et dont justement, là ici, il y a encore un retard à cause d'un problème d'un produit qui n'était pas aux normes. Voilà. Et ils ont essayé un vol en 2019, et pourtant, et l'entreprise a quand même réussi à atteindre l'ISS pour la première fois il y a à peu près un an. Donc c'était en 2022. Et le problème, c'est que Boeing a rencontré énormément de soucis pour envoyer. Envoyer des gens sur l'ISS. Pour l'instant, il n'y a que SpaceX. Mais on croise les doigts, et puis d'ici quelques années, dans tous les cas, je pense que Boeing sera l'une des entreprises.
C'est l'éternel combat des David et Goliath. C'est-à-dire que SpaceX, étant plus jeune, a beaucoup moins de friction au niveau de sa charge administrative ou juste de son inertie en tant que grande entreprise. Ce qui est difficile pour Boeing, qui, malgré énormément d'expérience dans le secteur, du coup, a énormément de process en place et donc va plus lentement.
C'est ça. Mais en parlant de petites fusées, justement, fusées européennes, là, il y a des étudiants français, justement, qui font décoller, alors il y en a de plus en plus, qui font décoller des petites fusées, notamment, là, c'est ce qui s'est passé début juin, des étudiants français qui ont envoyé une fusée expérimentale qui a décollé cette fois-ci de Suède. Et en fait, ils ont développé ça dans le cadre du programme Perseus du CNES, qui a pour but d'envoyer des projets étudiants. Donc Perseus, ça veut dire projet étudiant de recherche spatiale universitaire et scientifique, et qui propose de nombreux projets expérimentaux aux étudiants qui sont volontaires et qui développent tout un tas de petits projets. Donc là, par exemple, il y a eu un décollage qui est, vous pouvez retrouver ça sur le Twitter du CNES, le 1er juin. Donc il y a eu un premier report, mais ils ont envoyé ce qu'ils appellent un démonstrateur qui s'appelle le Serra 4, qui s'est envolé à 4h du matin le 1er juin. Et voilà, donc on envoie des petites fusées étudiantes. En gros, le but, c'est de développer des petits projets de fusées plus petites pour des projets plus petits d'études spatiales. Voilà, donc ça s'est passé. Elle a été envoyée depuis la Suède, mais on en envoie... Alors, ils ont été également envoyés depuis Tarbes, en France, en juillet, c'est prévu pour juillet, attendez que je retrouve mes notes. C'est le Space... Je sais plus, c'est Space, je crois.
Le C-Space, c'est ça.
Le C-Space à Tarbes. Et en juillet, et en Guyane également, est prévu des envols de ce genre de petites fusées.
Mais elles vont jusqu'où, du coup, dans l'espace ?
Ben, ça dépend de ce qu'ils envoient. Et là où ils veulent l'envoyer, ça dépend. Ça peut dépendre du projet aussi. Hein.
Alors normalement, ces fusées-là, elles ne sont pas en orbite. Il y a un peu des concours à qui arrivera le plus haut possible, mais elles n'atteignent pas l'orbitation.
Dernière chose, dernière petite news de ce qui s'est passé là au mois de mai cette fois-ci, l'espace qui a été mis en musique dans une symphonie spatiale, ça s'est passé, donc c'est une première mondiale, hein, ça s'est passé à Arlington le 11 mai, et c'est une symphonie qui s'appelle The Cosmic Cycle, Cosmic Cycles, et apparemment ça a bluffé les spectateurs grâce à des images époustouflantes fournies par la NASA. Vous pouvez retrouver cet article sur lefigaro.fr culture. Et c'est une grande première parce que ça mélange à la fois le spatial, l'artistique, musical et en images. Donc c'était vraiment une symphonie autour des images fournies par la NASA et inspiré de l'espace également, au niveau de la composition de la musique. Donc vraiment très intéressant. Vous avez une vidéo sur YouTube, sur le YouTube de Cosmic Cycles de la NASA, qui s'appelle A Space Symphony. C'est vraiment beau à voir et à écouter. Je vous le conseille vivement. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, pour cet épisode du mois de juillet 2023, nous avons dans nos studios ici présentes Claire, qui nous vient de Brown University.
Bonjour.
Bonjour à toi, Claire.
Bonjour, Claire.
Alors, bonjour, Claire. Et du coup, alors, ça se trouve où, Brown University?
Alors, Brown University, c'est en Providence, Rhode Island. C'est un état tout petit sur la côte est des États-Unis. Voilà.
Ok, donc c'est pas très loin de New York.
Oui, c'est à 3 heures en voiture de New York.
Et c'est en dessous ou au
c'est
nord?
C'est au-dessus.
Au nord de New York.
Au nord, ouais.
Ok, Brown University. Alors, est-ce que c'est pas loin de... qu'est-ce qu'on a comme autre ville dans ce coin-là?
C'est pas loin de Boston, c'est à 1 heure de Boston.
D'accord, pas très loin de Boston, très bien. Alors, toi, tu travailles sur quoi exactement?
Alors, moi, j'étudie l'ingénierie à Brown University. Et je travaille aussi dans le BDW. C'est un peu un endroit où tous les étudiants de undergrad et aussi des gens dans la communauté de Providence peuvent venir travailler sur des projets, utiliser des machines, du bois pour le métal.
Fabriquer des choses et
oui,
tout ça. Quoi.
Voilà.
Par rapport à un étudiant français, en France, on a à l'université, juste après le bac, on a le baccalauréat, donc c'est après le high school, après le lycée, after high school. Toi, tu es en licence, l'équivalent de la licence.
Oui, je viens de finir deuxième année. Et ouais, voilà, je suis ici pendant l'été, puis je retourne pour ma troisième année à Brown.
Alors pourquoi tu es ici justement? Pourquoi tu es venu ici dans le Cantal?
Oui, c'est rigolo. En fait, je joue au water polo à Brown University et j'ai une copine qui était sur mon équipe qui s'appelait Maya. Et j'ai vu sur LinkedIn qu'elle parlait de sa cousine Louise et un peu son business qu'elle venait de commencer, qui s'appelait le Spring Institute et for Forest on the Moon. Et je me suis dit, bah, c'est super cool et ça, c'est très similaire à ce que je fais ici à Brown parce que j'étais dans un club d'ingénierie lunaire. Alors, j'ai trouvé son LinkedIn, j'ai parlé avec elle et j'ai demandé si tu as besoin d'aide, je veux bien venir. Être un part de Spring Institute parce que c'est vraiment super le travail que vous faites là-bas. Et je suis ici maintenant.
Ici, donc, dans le Cantal, à Plot exactement,
ouais.
Où tu te retrouves ici, pour travailler avec Spring Institute. On a déjà eu le mois dernier Patrick qui travaille également en ce moment dans le Cantal, qui nous vient aussi des États-Unis. Alors, ma question c'est, quelle est la vie d'une étudiante aux États-Unis là-bas. Est-ce que c'est comme en France qu'on s'imagine la vie d'un étudiant américain? Est-ce que on fait souvent la fête? Est-ce que il y a des sororités, des fraternités, etc.?
Oui, on aime bien faire la fête là-bas. Il y en a plein de sororités et fraternités. Moi, à l'université de Brown, puisque c'est un Ivy League, mais aux autres universités,
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une Ivy League?
Ouais. En fait, les Ivy League, il y en a 8 et c'est des écoles, des universités très très vieilles qui sont un peu plus rigoureuses.
Ouais.
Ouais. Que les autres universités. Alors, on aime bien faire la fête quand même, mais un peu moins des autres universités. Des autres universités, ouais.
D'accord. Louise, elle a une question.
Oui, est-ce que tu peux nous parler, parce que donc, tu fais partie de l'équipe de water polo, qui est un autre, c'est une autre chose dont on entend beaucoup parler en France, c'est le sport à l'américaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, à quoi ça ressemble tes entraînements?
Oui, alors c'est très intense, le sport américain. On a vers 3 heures d'entraînement par jour.
3 heures
Oui, et les week-ends, on a... Quelques week-ends dans notre saison de water polo, on a 6 matchs le week-end.
6 matchs.
Oui, à 1 heure d'échauffement et 1 heure de match. Alors, ça fait des week-ends de 12 heures de water polo. Alors, ça fait quand même beaucoup. Il faut être en pleine forme pour... ouais.
Pour être à fond pour les matchs après le week-end.
Ouais. Faut pas trop faire la fête.
Justement, alors il y a tout ce sport, faire la fête, les études dans tout ça, comment est-ce que tu fais pour survivre?
C'est une bonne question.
Combien de temps par nuit?
Vers 6 heures.
Ça va.
Ouais,
ça
va.
Peut être mieux, mais ça.
Ouais.
Donc beaucoup de sport, énormément de sport, beaucoup plus que des étudiants français, j'imagine. Ouais. Et du coup, alors il y a des équipes étudiantes, des équipes universitaires en France, mais pas beaucoup. Au final, c'est beaucoup aux États-Unis où il y a des équipes universitaires, par exemple de baseball, de basket, etc. Est-ce que c'est un peu comme dans les films américains, tout ça, les histoires d'équipes universitaires?
Ouais. Je dirais.
Ouais, c'est la même chose.
L'équipe de football américain à Brown University, c'est une équipe de 120 hommes musclés, énormes, qui n'aiment pas vraiment faire leurs études parce qu'ils sont toujours en train de s'entraîner. Nous, l'équipe de water polo féminin, on partage la salle de...
De musculation
avec eux, et c'est vraiment la galère parce que ils veulent tout prendre, on n'a pas assez d'espace.
Ils monopolisent un peu,
ils
sont tout
monopolisent, le temps là, exactement. Et... Ouais.
Donc c'est vrai.
C'est un peu comme les rugbyman.
Ouais.
En France, on a un peu le cas avec les rugbyman, c'est vrai.
Alors, le football, on ne sait pas, mais ici, c'est typique. Comment dire, des équipes de rugby qui, quand ils sont là, oui, on sait qu'ils sont là.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on a ce cas-là dans les bars aussi, on imagine souvent sur Aurillac aussi, que dès qu'il y a une équipe de rugby qui est là, on sait qu'ils sont là. C'est vrai. Comment t'es venue l'idée, toi, quand t'étais petite, comment t'es venue l'idée de faire de la science? Qu'est-ce qui t'a plu et incité à faire de la science?
Je sais pas comment dire. Je suis pas allée dans une école normale. C'est ma mère qui m'a enseignée à la maison. Et on avait, moi et mes sœurs, on avait un peu le droit d'étudier ce qu'on voulait. Et moi, j'aimais trop être dehors de la maison, être dans la nature. Ma mère nous prenait faire du birdwatching.
Observer les oiseaux.
L'observation des oiseaux. Mm. J'avais un petit journal où j'écrivais les noms des oiseaux, un peu d'informations sur les espèces différentes. J'avais un jardin à moi-même où je plantais des fleurs, des légumes. Alors, c'était pas vraiment like hard science. Moins d'expérience, mais beaucoup de temps dans le monde naturel.
Observer la nature, prendre son temps à observer, etc. Ouais, c'est ça. Et commencer. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans mon entourage, en tout cas ceux qui font de la science en biologie, qui ont commencé par ce genre de choses, à observer les plantes, observer les animaux, observer les oiseaux, ouais. En l'occurrence. Et puis les oiseaux, ça se prête bien, parce que c'est un petit peu comme... Je prends l'exemple de Pokémon, par exemple, où c'est, voilà, faut qu'on va chercher un oiseau, on va noter, j'ai observé lui, ouais. C'est bon, je l'ai observé, etc. Et c'est passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que tu aimerais faire, du coup, après ? Parce que là, tu es en licence, à l'université, dans le Cantal. Est-ce que la France, c'est un pays qui t'intéresserait ? Tu voudrais rester travailler ou tu aimerais voyager, partir dans le monde entier ?
Oui, j'ai de la famille en France. Mon père est français, alors j'ai plein de tantes et d'oncles à Paris. Et puis, je suis venue en France quand j'étais petite avec ma famille. Et j'aime trop la France, alors je voudrais bien retourner après cet été. Peut-être travailler ici, mais ouais, surtout
sur revenir. Sur la, alors, ouais. Paris peut-être ou tu...
Pas Paris.
Non.
Je trouve ici. Ici, dans le Cantal, je trouve que les Français deviennent de plus en plus gentils le plus loin que t'es de Paris.
Oui. Donc, si vous voulez trouver des Français gentils, n'allez pas à Paris.
Ouais.
Non, après, c'est vrai, le Cantal, c'est bien.
Ouais.
Le Cantal, c'est bien. Ici, on a un super ciel étoilé la nuit. Il y a une ville qui s'appelle Aurillac qui est vraiment sympa, où on peut... On peut chiller tranquille dans un parc ou aller boire un coup ou avoir une nuit. Il y a des nuits étudiantes, enfin un peu plus mouvementées avec quelques soirées, on va dire. Bon, c'est pas hyper vivant non plus, Aurillac peut-être.
Une voiture.
Ouais, faut une voiture. Dans le Cantal, il faut une voiture. Non, on est un peu obligé.
J'ai une question. Alors, c'est pour rebondir à Patrick, avec qui j'avais posé la question le mois dernier. Quand on regarde des films sur les étudiants aux États-Unis, ils viennent toujours de Harvard et du MIT. Et est-ce que c'est l'inverse? Quand les Américains voient des films sur les étudiants européens ou français, ils viennent de quelles universités? C'est inventé ou?
J'ai pas vraiment vu des séries avec des enfants ou des jeunes français qui sont à l'université. Mon série européen que je préfère, c'est Young Royals, et c'est un peu la monarchie.
Ok, je connais pas, je regarderai.
Ouais, c'est super.
Young Royals. Young Royals. Jeunes royaux, d'accord.
C'est okay. Sur Netflix.
Ok, je regarderai ça alors. Et on fera un petit bilan la prochaine fois avec notre avis, etc. Alors du coup, ouais, c'est vrai qu'au niveau des étudiants français, il y a beaucoup de... Moi, on m'a souvent dit... que ce soit en Australie ou aux États-Unis ou un peu partout, beaucoup s'imaginent le film qui est connu ici qui s'appelle L'Auberge Espagnole. The Spanish, I don't know the name in English, mais en gros, c'est un étudiant français qui vient faire ses études à Barcelone, en Espagne, et il y a des gens de toute l'Europe qui se retrouvent là-bas et ils sont une grosse colocation, etc., etc. Et donc, on imagine beaucoup les étudiants européens comme étant des étudiants qui vont à droite à gauche dans plein de pays différents avec le programme Erasmus qu'on a ici. Voilà.
Alors, vous ne voyez pas, mais Claire n'a pas l'air de connaître ce film.
Non,
alors,
oui,
du coup,
oui.
Est-ce que Claire, tu peux nous dire un petit peu, toi, donc ton père était français, mais dans des amis américains, quand ils regardent la France ou l'Europe, c'est quoi leur stéréotype à eux?
C'est un peu rigolo. Mon surnom sur mon équipe de waterpolo, c'est Oui Oui.
Oui Oui.
Oui.
Comme le dessin animé.
Personne. Je m'appelle Claire, mais personne m'appelle avec ce nom. C'est un peu parce que ce surnom est rigolo, mais aussi il y a deux autres Claires sur notre équipe. Alors pour me
différencier,
elle m'appelle Oui. Chaque fois que mes amis voient des posts sur Insta ou avec des baguettes ou des escargots, ils m'envoient ça.
T'es la frogs, froggy.
Ouais. Yes. Mais c'est pas une vraie stéréotype que les Français mangent
des grenouilles.
Des grenouilles.
Ah ouais, c'est vrai. C'est souvent on m'a appelé quand j'étais par exemple en Australie, on m'appelait the froggy frogs. Ouais. Ils appellent les Français comme ça.
Ah, ouais, ouais.
Mais peut-être qu'aux États-Unis, ça doit être différent. C'est plus les escargots et la baguette. Ouais. C'est vrai que c'est un truc, c'est un des stéréotypes français très connus. Très connus. Donc du coup, tu travailles, toi, tu voudrais te spécialiser dans le domaine scientifique sur tout ce qui est lunaire, d'accord. Et quoi particulièrement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce domaine d'études?
Oui. Alors à Brown, je suis, comme j'ai dit, dans un club d'ingénierie d'espace. Et un projet qu'on vient de finir, c'était une expérience avec le Lunar Regolith. C'est la Terre qui se trouve sur la Lune. Et on voulait savoir si on pourrait faire pousser des plantes dans cette Terre de Lune. Et on a fait une expérience avec des cactus, où on a pris des morceaux de cactus et on les a...
plantés.
On les a plantés dans cette Terre et on les a laissés pendant 8 semaines. Et ils ont poussé. Ils ont fait des fleurs et alors on a collecté les résultats et écrit un papier et on vient de gagner une petite award. Une petite récompense pour notre travail. Alors je pense qu'il nous reste toujours un peu de Terre de Lune et je pense que le prochain semestre à Brown, on va faire une expérience similaire avec un autre type de plante pour voir
ce qui pourrait pousser dedans.
Pourrait pousser, ouais.
Donc le sol lunaire, donc, oui, parce qu'on dit terre de lune, mais c'est plutôt du coup le sol lunaire. Ouais. Comment on fait pour avoir du sol lunaire? Donc c'est de la régolithe, tu dis. Comment on fait pour avoir du sol lunaire? Parce que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Alors c'est pas vraiment le sol de la lune, c'est fait avec chimie. C'est créé, c'est synthétique.
D'accord,
ouais.
Okay.
Mais on a beaucoup de chance parce que le regolith qu'on a, c'est très proche de la composition vraie.
La composition vraie, de celle qui est en vrai sur la Lune.
Ouais,
quoi. D'accord.
Ouais, exactement.
Et donc, le but, ce serait de pouvoir faire pousser des plantes dans du sol lunaire,
peut-être même des plantes comestibles.
Comestibles ensuite, pour les astronautes, quoi. On imagine sur les stations lunaires du futur.
Oui, exactement.
Exactement. D'ailleurs, ça rejoint le sujet. Didier, tu avais une question?
Oui, j'ai une question. Alors, du coup, on parle de système éco-fermé, etc. Du coup, pour être astronaute, il faudrait être vegan, il n'y aura pas de viande ou il faut l'amener avec?
Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on mangera que des plantes, du coup, dans le futur? Pour les astronautes.
Est-ce qu'il y aura des vaches salaires sur la Lune? C'est ça qui nous intéresse.
peut-être pas.
Ça va être compliqué.
Il y a pas mal d'études dans l'écosystème fermé qui regardent les poissons aussi. Puisque dans les aquariums, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. Donc on va manger du poisson, probablement. Et après, pour les organismes plus évolués, donc les poulets, le porc, les vaches de salaire, ça va demander beaucoup, beaucoup plus de...
C'est beaucoup plus compliqué.
...de support, donc on verra. On va essayer de faire en sorte qu'on emmène une vache de salaire quand même.
Ce serait énorme d'avoir un élevage de vaches sur la Lune. The Moon Cows... La nourriture des astronautes dans le futur sur la Lune, très certainement beaucoup de végétaux. Pour l'instant, on a réussi à faire pousser des cactus à Brown University. Merci Claire, franchement c'était génial. Et peut-être que d'ici quelques années, tu seras la première agricultrice de la Lune, peut-être.
Peut-être.
Et oui, on pourra t'observer peut-être depuis la Terre dans les stations lunaires grâce à un télescope, on ne sait pas. En tout cas, merci à toi. Et puis, on te souhaite une bonne continuation. Et puis, j'espère qu'on aura très vite de tes nouvelles pour savoir comment ça s'est passé, tes futures études, quoi.
Ouais.
Bon courage, Claire.
Merci beaucoup.
Bon courage et bonne journée. Donc cet épisode du mois de juillet est désormais terminé. Nous nous retrouverons pour l'épisode du mois d'août. Cette fois-ci, nous serons au 11e épisode, bientôt les 1 an. Soyez prêts parce que nous aurons une petite surprise pour la prochaine rentrée scolaire. En tout cas,
bonne
fin de journée et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Furthermore, the equation E is equal to mc squared, in which energy is perfectly equal to mass.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Ah oui, tout est relatif.